Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Pendant que le monde célèbre ce 8 mars, la journée dédiée aux droits de la femme, le quotidien de la femme de Béni depuis plus d'une décennie, c'est faire face aux conflits, aux violences armées et aux déplacements forcés. Malgré tout, les femmes de Béni font preuve d'une grande résilience. Pendant le mois de Ramadan dans la province du Maniema, l'on observe une stabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité qui permettent aux musulmans de rompre le jeûne le soir. À Goma, le collectif des associations féminines pour le développement CAFED a remis mercredi des diplômes de mérite à plus de 80 personnes engagées en faveur de la promotion des droits des femmes au Nord Kivu. Une lutte de plus de 30 ans menée de front avec les plaidoyers pour une paix durable dans cette province. Pour en parler, nous recevons Isabelle Pendeza, présidente du CAFED, qui estime qu'il est urgent d'associer les femmes à tous les processus de paix. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal de la mi-journée. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars, nous nous penchons sur la situation des femmes de Béni au Nord Kivu. Dans cette région, l'insécurité persistante liée aux conflits armés pèse lourdement sur leur vie quotidienne. Privées de ressources, confrontées aux violences et exposées à des menaces constantes aussi, qu'au déplacement forcé, ces femmes voient leur autonomie et leur épanouissement compromis. Martial Papi Moukeba nous fait découvrir leur réalité entre résilience et défis permanents.
Faire face aux conflits, aux violences armées et aux déplacements forcés, c'est le quotidien des femmes de Béni depuis plus d'une décennie. Cette situation affecte leur vie quotidienne et leur autonomie, comme le souligne Noëlla Mouliouavio, coordonnatrice du collectif des femmes pour les vulnérables « Qu'avez-vous de Béni ?»
La femme du territoire de Béni ne s'épanouit pas parce qu'elle est menacée. Du jour au jour, elle s'entête aux incursions nocturnes. C'est plus la femme rurale qui est tellement pauvre parce qu'elle n'a pas accès aux chats. Elle est menacée par la guerre et par les groupes armés. Et d'ailleurs, c'est cette femme qui est plus victime de violences basées sur les genres.
Les conséquences ne se limitent pas à l'économie. Elles touchent aussi leur santé, éducation et bien-être psychologique, comme le rappelle Ange Maliro de l'organisation Tendolaro.
Il y a des problèmes psychologiques liés à l'insécurité, parce qu'ils ont perdu leurs moyens de ressources. Mais aussi, malgré ça, autour de nous, il y a des centres de santé qui ont été incendiés, des hôpitaux. Il y a les femmes, comment ils accouchent, comment ils suivent les soins, ça devient compliqué.
Malgré ces difficultés, les femmes de Béni font preuve d'une grande résilience. Béni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Dans le même registre, l'insécurité chronique ne détruit pas seulement des vies, elle brise aussi l'espoir d'une autonomie financière pour des milliers de femmes du Nord Kivu. C'est l'analyse des organisations féminines en province. Pour elles, malgré le courage des femmes du Nord Kivu, chaque avancée est régulièrement balayée par les cycles de violence. Pour les femmes leaders de la province, il est désormais urgent d'obtenir une paix définitive pour que le fruit du travail des femmes ne soit plus réduit à néant. Plus d'explications avec Rosalie Zawadi.
Dans de nombreux villages du Nord Kivu, des femmes qui ont mis des années à bâtir des projets voient leurs efforts anéantis en l'espace de quelques heures. Le scénario est souvent le même. Des hommes armés surgissent dans les villages, incendient des maisons, pillent les bétails et sèment la mort. Ceux qui parviennent à s'échapper tentent de reconstruire leur vie dès qu'une accalmie se profile. Mais l'espoir est souvent de courte durée, car l'insécurité finit toujours par les rattraper. Pour Emmanuela Vassikia de l'organisation Action des volontaires pour la solidarité et le développement, ces cycles de violence qui durent depuis des décennies épuisent.
Tous les jours, avec des déplacements massifs, ça ne nous permet pas d'avoir des femmes qui ont l'ancrage, parce que nous sommes un peu découragés, parce qu'au fur du temps que nous travaillons sur les capacités de femmes, mais après un mois, on va voir les femmes sont déplacées, ou soit les femmes, quand on les travaille avec eux dans le cadre de leur autonomisation, ça nous décourage beaucoup, parce que tous les jours, il y a des crises, on a besoin de la paix.
En ce 8 mars, les femmes leaders du Nord Kivu rappellent que sans une vraie paix, le développement et l'autonomisation des femmes resteront des vains mots dans une province où tout est sans cesse à refaire. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Journée de la femme encore, depuis plusieurs décennies, les structures de défense des droits des femmes dans l'espace Grand Kasaï militent pour l'égalité entre l'homme et la femme. Mais certaines coutumes jugées rétrogrades, voire avilissantes, continuent de freiner cette lutte. Au Kasaï central, des leaders coutumiers ont décidé de s'impliquer. Ils ont signé un acte d'engagement pour lutter contre ces pratiques qui entravent l'épanouissement des femmes. Cependant, sur le terrain, les vieilles habitudes ont la peau dure et ces pratiques persistent. André Katende, reportage.
Mariage précoce, lévira ou encore sorora, ces pratiques coutumières ont longtemps réduit les femmes kasaïennes à de simples objets. Il y a aussi ces humiliations publiques des femmes accusées d'adultère qu'elles ont fait promener nues en pleine journée. Aujourd'hui, grâce aux actions de sensibilisation, plusieurs autorités traditionnelles affirment avoir pris conscience de la situation. Elles s'engagent à abolir de telles pratiques. Le chef Étienne Samwanda du groupement des Apumapunda Samwanda dans les territoires de Luisa explique les raisons.
Ces pratiques sont critiquées pour leur impact néfaste. Nous sommes parvenus à signer un acte d'engagement pour abolir quelques coutumes de notre tradition.
Malheureusement, au début de leur combat, certains chefs signataires passaient pour des traîtres. Mais la sensibilisation a progressivement fait évoluer les mentalités, souligne André Kalala, premier vice-président de l'Alliance des autorités traditionnelles et coutumières du Kasaï central. Cet engagement a aussi poussé l'Assemblée provinciale à adopter un édit contre les coutumes avilissantes. Mais malgré cela, ces pratiques persistent dans la communauté. Les chefs coutumiers appellent désormais au respect de cette législation. Kananga, André Katendengalamoulemé, Radio Kapi.
Et puis au Maniema, 40 103 cas de violences sexuelles basées sur les genres ont été documentés en 2025. Ces chiffres sont livrés par la chef de la division genre, famille et enfants qui alerte aussi sur la persistance de la présence des groupes armés qui font pleurer les femmes. Madame Poa Chuzi Elisabeth plaide pour l'implication des autorités compétentes afin que ces fléaux soient éradiqués au Maniema. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Pour l'année 2025, nous avons enregistré au moins 40 103 cas de violences basées sur le genre, et dont 2 953 sont des filles de moins de 18 ans. Vraiment, la femme du Maniema a perdu sa dignité. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque, c'est elle l'épouse de quelqu'un, c'est elle la maman de quelqu'un, mais hélas, elle a perdu totalement sa dignité. Il arrive même dans les braquages dans la ville de Kindu, ici au centre-ville. Quand il y a braquage, on vole l'argent, on prend des histoires, mais on finit toujours par violer les femmes. Vraiment, la femme du Maniema n'a plus de dignité. Je demande aux autorités de chercher comment éradiquer ce système, et surtout au sud Maniema. Et cela s'est dit au conflit des groupes armés qui sont maintenant résidents, ils sont permanents pendant au moins 15 ans. Ils sont toujours de violer des femmes et de les tracasser de toutes sortes de formes de violence. Ça, c'est vraiment ma plainte aux autorités. Autorités de notre province, je demande qu'ils puissent chercher un moyen d'éradiquer toutes ces violences qui sont perpétrées aux femmes et aux filles.
Vous le savez, c'est depuis le 18 février que les musulmans du monde entier observent le mois du Ramadan. Il est marqué par le jeûne que doivent respecter les fidèles et qui fait partie des 5 piliers de l'islam ainsi qu'un certain nombre d'autres obligations. C'est une période où les fidèles musulmans se sanctifient. Dans la province du Maniema, l'on observe une stabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité qui permettent aux musulmans de rompre les jeûnes le soir. Les produits concernés par cette stabilité des prix sont les bananes, patates douces, manioc, sucre et arachides. Une bonne nouvelle pour les musulmans. Florence Kizalunga, reportage.
Selon le femme musulmane que nous avons rencontré, contrairement aux autres années où le prix de presque toutes les denrées alimentaires de première nécessité était à la hausse, cette année, c'est le contraire. Sur le marché, les prix sont restés stables, chose qui enchante les femmes musulmanes qui affirment n'avoir pas de difficultés pour préparer l'iftar, le repas de rupture de jeûne au coucher du soleil pendant le Ramadan. L'une d'elles témoigne.
Et nous remercions Dieu. Après la prière du dimanche, nous achetons les maniocs, les bananes, les arachides pour mettre dans le tari. On achète encore la farine de maïs, du sucre pour faire la bouillie. Nous continuons toujours à remercier Dieu car tout est bien. Les bananes sont à la normale comme avant. Les maniocs aussi, nous achetons au prix abordable. Les sucres également. Au passé à ces mois, il y aurait aussi des prix, mais tout est bien.
Sachez que le mois de Ramadan est un moment de générosité, de compassion et de dévotion, transformant la faim en empathie. Le soir après la prière, assis sur des nattes, les fidèles musulmans communient avec tout le monde. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Ce journal se poursuit dans la province de la Tchopo. Le cacao de cette partie du pays se porte bien malgré les obstacles. L'Alliance productive de Kisangani a présenté son bilan annuel hier au cours d'un point de presse. 2 ans seulement après la mise en place des champs, 28 tonnes de fèves ont été exportées. Un signal fort pour l'économie locale, même si les coordonnateurs de l'Alliance dénoncent une mafia administrative. Jacques Moukonkole nous en dit plus.
C'est un bilan qui redonne espoir aux acteurs agricoles de la région. Hier, face à la presse, l'Alliance productive de Kisangani a affiché ses chiffres. 28 tonnes de cacao produites et exportées en 2025. Pour Dominique Kassimba, coordonnateur de la structure, cette première étape réussie ouvre la voie à des ambitions plus grandes.
Ce qu'on a déjà mis en place et ça va me permettre d'ici 2030 d'être à mesure d'exporter ou de produire autour de 1000 tonnes de cacao.
Mais cette réussite est menacée par un climat des affaires étouffant. Dominique Kassimba pointe du doigt la multiplicité des taxes et plaide pour une solution concrète, la centralisation des paiements.
On ne peut pas avoir un bon climat des affaires si les opérateurs économiques ou les producteurs doivent toujours faire face à une multitude de taxes qu'ils ne parviennent pas à retracer. On demande toujours d'harmoniser les taxes de l'État, de ne pas nous matraquer avec des multitudes de taxes. Face à ça, va vraiment décourager les là et tuer les secteurs.
Enfin, le coordonnateur a profité de ce point de presse pour lancer un cri d'alarme. Il dénonce une mafia orchestrée par un service effectif se revendiquant de la présidence de la République, une structure qui excelle dans les tracasseries et que les autorités, tant provinciales que nationales, sont appelées à démanteler de toute urgence. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En Ituri, remise vendredi dernier aux communautés locales du groupement de Tchéré, à la périphérie sud-ouest de Bounia, du marché dit de la pacification. Construit par l'Organisation internationale des migrations OIM, ces lieux servira d'endroit des rencontres entre communautés pour renforcer la cohabitation pacifique. Satisfaction des bénéficiaires. Marcel Kizia Biamongo était sur place, suivait son reportage.
Construit dans les cadres du processus de paix et de la stabilisation en Kora d'Ituri à la demande des autorités locales, le nouveau marché de Tséré est un signe de l'accalmie qui règne dans cette zone jadis victime des exactions des groupes armés. Selon le chef des sous-bureaux de l'OIM Bounia, Issoufou Kosikoye Moussa, cet ouvrage va renforcer la cohabitation pacifique entre communautés locales jadis séparées par des conflits identitaires. Au nom des communautés bénéficiaires, le chef du groupement Tséré, Zamundu Batagura, a déclaré que ce marché va faciliter l'intégration des populations riveraines et renforcer le tissu économique local. Il appelle les populations des différentes communautés à s'approprier ces projets. Que tout le monde arrive au marché de pacification des Tséré. Nous voulons que nos frères des Kunda, des Balazana, les mamas marchandes de la ville de Bounia arrivent dans ce marché de pacification des Tséré et puis sans distinction. Pour la redynamisation des activités commerciales, les marchés sera opérationnel 3 fois par semaine, indique le chef du groupement de Tséré. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Renforcer la santé maternelle et néonatale en RDC pour réduire les taux de mortalité dus aux complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, c'est l'objectif principal du projet Bomoya Mama na Mwana, traduisez la vie de la maman et de l'enfant, lancé samedi à Kinshasa par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en partenariat avec le Conseil National de Couverture Santé Universelle et la Fondation Vodacom. Ce partenariat public-privé s'inscrit dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né en RDC où 4 femmes meurent chaque heure en donnant naissance d'après les statistiques révélées par l'Organisation mondiale de la santé. À travers cette initiative, le gouvernement s'engage à combattre ces drames en renforçant la prise en charge de la santé maternelle et néonatale pour atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Plusieurs actions sont prévues dans le cadre de ces projets. Le représentant pays des UNFPA salue l'engagement des partenaires publics et privés tout en soulignant la nécessité de fournir plus d'efforts pour permettre au projet de produire un impact remarquable auprès de ses principales cibles. Le propos de M. Alain Akpanji ont été recueillis par Jude Mister Bilanda.
Comment parler de progrès et de justice sociale et surtout de la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 avec la volonté commune de la communauté internationale de réaliser un monde dans lequel personne n'est laissé de côté? Et comment pouvons-nous atteindre ces objectifs si les femmes continuent de mourir en donnant la vie? La santé maternelle n'est pas seulement une responsabilité du gouvernement ou des partenaires techniques et financiers. C'est aussi un investissement dans le capital humain avec un retour d'investissement clair et certain pour la croissance économique et l'avenir du pays. Ainsi donc, unissons nos forces pour que chaque naissance ne soit plus un risque de mort, mais une promesse de vie.
Notons qu'au moins 23 nouveaux-nés meurent chaque jour en RDC à la suite des complications de la naissance, statistiques révélées par l'Organisation mondiale de la santé. Cette information avant d'aller plus loin. Signature ce week-end à Kinshasa d'un protocole d'accord entre l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et la société d'exploitation du guichet unique du commerce extérieur Ségus. Ce partenariat vise notamment à renforcer la digitalisation des procédures du commerce extérieur et améliorer la sécurisation des opérations d'importation en République démocratique du Congo. Jocelyne Moussa Oponde et Kaki Akiwa étaient présents. Voici leur reportage.
À travers ce protocole, l'ARCA et le Ségus entendent renforcer les chances d'information et la coordination entre leurs institutions afin d'intégrer davantage la dimension assurantielle dans les procédures du commerce extérieur. Selon le directeur général de l'ARCA, cette démarche s'inscrit dans la vision du gouvernement qui mise sur la dématérialisation pour moderniser l'administration publique et améliorer la transparence dans les opérations économiques. Pour l'ARCA, ce protocole a pour but de renforcer les échanges d'information et la coordination entre les deux institutions. Ce rapprochement avec le Ségus permettra aussi de renforcer le contrôle des assurances liées aux marchandises importées et de lutter contre l'évasion des primes d'assurance. Écoutez Alain Kanida, directeur général de l'ARCA.
L'ARCA, régulateur du secteur des assurances, veille également et surtout à faire respecter l'esprit du code des assurances à travers la lutte contre l'évasion des primes d'assurance et le contrôle scrupuleux des assurances rendues obligatoires, dont l'assurance des facultés à l'importation.
À travers ce partenariat, l'ARCA et le Ségus espèrent ainsi contribuer à l'amélioration du climat des affaires en import-export en République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Au Congo-Brazzaville, la campagne se poursuit avant la présidentielle du dimanche 15 mars. Joseph Kingumbi Kiambungu, dirigeant du parti d'opposition La Chaîne, est candidat pour une 5e présidentielle depuis 2002. Il fait partie des 7 candidats qui vont solliciter les voix des Congolais. Il sera notamment opposé au président sortant, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, dont plus de 40 ans cumulés à la tête du pays. Cette fois-ci, Joseph Kingumbi Kiambungu espère gagner pour donner un nouveau souffle au Congo-Brazzaville. Il sera également opposé à Angios Ngwangi Ngambe, Dave Mafula, Destin Davé, Mabio Mavungu Zinga et Vivienne Romain Manangu.
L'invité.
À Goma, le collectif des associations féminines pour le développement CAFED a remis mercredi des diplômes de mérite à plus de 80 personnes engagées en faveur de la promotion des droits des femmes au Nord Kivu. Une lutte de plus de 30 ans menée de front avec le plaidoyer pour une paix durable dans cette province. Pour Isabelle Pendeza, présidente du CAFED, il est urgent d'associer les femmes à tous les processus de paix. Isabelle Pendeza est notre invitée dans cet entretien avec Rosalie Zawadi.
Madame Isabelle Pendeza, bonjour.
Bonjour Madame Rosalie Zawati.
Pourquoi cette cérémonie cette année?
Le CAFED s'est engagé depuis 1993 dans la promotion des droits de la femme et de l'enfant. Et beaucoup plus, c'était l'occasion pour nous de couronner les efforts de ces militantes, de ces femmes leaders qui ont eu à s'investir, à militer malgré les différentes circonstances pour la promotion des droits des femmes, mais aussi pour la protection des enfants. Aujourd'hui, on a jugé bon qu'il fallait célébrer le courage, la résilience de ces femmes, mais aussi à côté de ces femmes, il y avait des hommes engagés. Nous avons donné des diplômes de mérite à 86 personnes. C'était pour nous vraiment une occasion de partager, de lutter contre ces conflits qui circulent souvent, le conflit intergénérationnel, où c'était pour nous la question et surtout l'occasion de fédérer les efforts. La génération montante et les femmes leaders qui nous ont montré les chemins, qui nous ont ouvert la voie, en fait, et qui ont prôné à haute voix le droit de femmes.
Sur ces parcours de 3 décennies, qu'est-ce qu'on retient comme acquis?
Ce qui est vrai, on retient plusieurs choses, plusieurs réalisations, parce qu'aujourd'hui, avec le courage de ces femmes, dans la province du Nord Kivu, l'implication de femmes dans la recherche de la paix, dans la résolution de conflits communautaires, dans les dialogues communautaires, est manifesté depuis des années. Et aujourd'hui, c'était vraiment un moment d'écouter ce que les femmes leaders qui ont commencé avec la lutte ont eu à faire à ce moment. C'était quoi les défis, c'était quoi les réussites, c'était quoi l'éducation à nous donner aujourd'hui en tant que nouvelle génération ou génération montante.
En voyant les chemins parcourus 30 ans durant, est-ce qu'on peut dire que la lutte pour les droits des femmes a porté des résultats ou alors les droits des femmes sont plus bafoués aujourd'hui?
Exactement, nous pouvons parler de deux choses au même moment parce que avant les femmes n'avaient pas le droit même de s'exprimer. Les femmes n'avaient pas droit de parler en public, les femmes n'avaient pas droit à l'éducation, les femmes n'avaient pas droit à manger sur la même table avec les hommes, les femmes n'avaient pas le droit même de progresser en fait. Mais aujourd'hui, quand même avec les efforts fournis, beaucoup de femmes aujourd'hui sont finalement dans les instances de prise de décision. Je ne dirais pas qu'on est parvenu à relever tous les défis auxquels les femmes font face. Mais on ne peut pas dire que là où les femmes étaient il y a 10 ans, on peut dire qu'il n'y a rien n'a été fait. Beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, nous avons la loi sur la parité, nous avons la loi sur les violences sexuelles, nous avons différentes lois qui protègent la femme. Mais nous n'avons pas à oublier aussi que malgré ces lois, il y a toujours des défis. Parce que nous n'avons pas besoin seulement que ces lois soient écrites, mais nous avons besoin que ces lois soient réellement pratiquées, en fait, dans les quotidiens de femmes. Nous avons aujourd'hui un problème que nous devons vraiment dire. Les femmes doivent participer dans le processus de paix. Quand il y a conflit, les femmes et les enfants restent les premières victimes. Les femmes doivent être aussi sur la ligne, au même titre que les hommes, parce que parler des questions de paix, parler des questions de la participation de femmes, parlant des questions de l'émancipation de femmes, les femmes doivent elles-mêmes en parler.
Et quel message avez-vous à adresser aux femmes du Nord Kivu ou de l'Est de la RDC aujourd'hui?
Aux femmes de la province du Nord Kivu, le premier message, que ces femmes ne puissent pas baisser les bras, que ces femmes ne puissent pas abandonner. Rien ne se fera sans nous. Aucune solution ne sera durable sans l'implication de femmes. Et donc, nous devons nous battre, nous devons rester résilientes, nous devons renforcer nos compétences pour que la voix de la femme soit réellement écoutée et prise en considération. Que les femmes ne puissent pas être ces mâts de fleurs qui vont embellir les tables sur lesquelles les hommes vont prendre des décisions pour nous ou pour les femmes. Mais les femmes doivent être là comme des actrices au même pied d'égalité comme des hommes qui sont nos frères, qui sont nos pères, qui sont nos homologues.
Madame Isabelle Pendeza, je rappelle que vous êtes la présidente du collectif des associations féminines pour le développement. On en remercie vous, merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame Rosalie.
C'était notre invitée Isabelle Pendeza qui s'entretenait avec Rosalie Zawadi. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal de la mi-journée coordonnée par Richard Junior Kamunga et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net. Et nous en profitons pour souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, particulièrement celles du Nord et du Sud Kivu.